7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, le bien-être animal est-il devenu un nouvel enjeu de société ? Sur Internet, des campagnes de sensibilisation plutôt choc qui montrent la souffrance des animaux, notamment dans les abattoirs, ont fait le tour du monde. Les opinions publiques évoluent et le bien-être animal se retrouve dans certains pays propulsé à l'agenda politique. Interdiction d'animaux sauvages dans les cirques ou de spectacles de dauphins, amélioration des conditions de vie des poulets ou encore interdiction des élevages de visons pour leur fourrure. Finalement, c'est toute une ménagerie qui nous interroge sur notre relation avec les animaux et la nature dans un contexte urgent de changement climatique. Et quant à vous, les voisins et les voisines, vous avez la parole. Dites-nous, comment est considéré le bien-être animal ou la souffrance animale dans votre pays ? Animaux sauvages ou domestiques, comestibles, nuisibles ou utiles ? Vous avez la parole pour nous parler des animaux qui vous entourent. Appelez-nous sur WhatsApp 337 64 45 51 41. Cette émission est réalisée en partenariat avec le site d'information The Conversation. Nos invités sont avec nous, mais au téléphone, vous le savez, à cause du confinement en France, nous ne pouvons plus accueillir d'invités en studio, mais ils sont bien là. Bonjour Jennifer Gallet.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le site d'information The Conversation, un site d'information pas tout à fait comme les autres.
Oui, tout à fait, parce que nous essayons d'éclairer l'actualité avec les chercheurs. Voilà, donc l'idée c'est de décrypter tout ce qui fait le débat public avec les experts, les spécialistes, les scientifiques pour apporter une information de qualité voilà, au plus grand nombre.
Évidemment, ces articles sont à retrouver sur votre site internet, hein, theconversation.fr. C'est ça ?
C'est bien ça.
Et ces chercheurs, ils sont aussi avec nous. Audrey Maille, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes primatologue au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous nous rappelez en quoi consiste votre métier de primatologue ?
Alors, moi je suis spécialiste de la biologie du comportement des animaux. En fait, je suis devenue primatologue un petit peu par les hasards de mon parcours. Et aujourd'hui, je m'intéresse aux primates dans tous les contextes dans lesquels on peut les rencontrer. Alors, ça m'amène parfois à aller dans des pays qui sont bien éloignés du nôtre, puisque en fait, il n'y a pas de primates en Europe,
non,
à part les humains. mais je les étudie aussi dans les parcs zoologiques où on peut les rencontrer. Et parfois également dans les laboratoires de recherche où ils sont utilisés comme modèle biologique
oui,
par les chercheurs.
Donc je peux vulgariser et dire que vous vous intéressez aux interactions entre les singes et l'homme ?
Exactement, c'est comme ça que je résume effectivement mes axes de recherche.
D'accord, les primates c'est bien les singes. Laurent Beck-Chankland, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes professeur en psychologie sociale à l'université de Grenoble-Alpes. Vous travaillez sur la violence et les crimes envers les animaux ?
Absolument. Alors, je me suis intéressé pendant très longtemps aux violences entre humains. Puis, depuis quelques années, je m'oriente vers l'analyse, finalement, des facteurs qui favorisent les comportements de violence et d'instrumentalisation des autres animaux.
Et quant à vous, les voisins et les voisines, vous avez donc la parole. Dites-nous comment est considéré le bien-être animal dans votre pays, si c'est une question, hein, animaux sauvages, domestiques, comestibles, nuisibles, utiles. Je vous rappelle notre numéro de WhatsApp, c'est le 337 64 45 51 41. Vous nous suivez aussi sur Twitter en direct.
C'est un très beau renard que vous portez là. Peut-être pourriez-vous y ajouter des pantoufles fourrées spécialement confectionnées avec la tête d'innocent bébé phoque estourbi à main nue.
Tout sort, c'est une herculée.
C'est un de ces exaltés de l'écologie, mon cher.
On est là pour s'assurer que les gens sachent ce qui se passe ici. Les animaux sont traités comme des objets et même pire que des objets.
Nous sommes intervenus pour prendre en charge des lions. Tigres, les animaux étaient donc détenus dans des conditions pitoyables.
Un petit bébé lion a été découvert, l'arrière-train était fracturé. L'animal ne pouvait pas travailler ses muscles ou autre vu dans les conditions dans lesquelles il était détenu, c'était une cage pour chien. Sur place, nous avons pu voir la présence de cochons qui étaient détenus dans de mauvaises conditions. Je pense que ces animaux étaient élevés pour nourrir les fauves.
Il n'y a aucune honte à profiter des fruits de la nature. Essayez donc un jour, ça vous plaira.
D'abord il y a Hector le castor et Édouard le canard et José le sanglier et Charlotte la marmotte et Mireille l'abeille et Léon le frelon et Fédor le porc et Tonio le blaireau.
C'est ravissant, mais c'est plus trop la mode en Europe.
Garogorie.
Merci pour ce montage à notre réalisateur Romain Dubrac. Et tout de suite, on écoute un témoignage d'un voisin qui est à Goma, en République démocratique du Congo.
Bonjour RFI, je suis Toussaint Chamavou depuis la RDC Goma. J'aime les animaux comme tout autre être vivant, malgré que je ne mange pas de la viande. Ce n'est pas par rapport au bien-être de l'animal, mais c'est presque inné dans mon corps. Je suis sorti dans les entrailles de ma mère, c'est inné. Je suis dans le projet de garder quelques animaux, à titre d'exemple, la poule, le dinde, le lapin, etc. Et je suis aussi antispéciste parce que je vois mal la maltraitance des animaux. Je ne veux pas quand on traite mal les animaux, ça me fait tellement, tellement du mal. Il n'y a pas encore de mouvement antispéciste ici chez nous.
Audrey Maille, un antispéciste en République démocratique du Congo. Peut-être on va rappeler ce que ça veut dire antispéciste.
Peut-être que Laurent Beck serait plus à même de définir le terme antispéciste. Pour moi, c'est une idéologie qui pense qu'il n'y a pas de différence à faire entre les animaux humains et non humains.
Vous êtes d'accord avec ça, Laurent Beck Shankland?
Oui, alors en fait, effectivement, ça se base finalement sur le concept de spécisme qui a été forgé par un philosophe qui s'appelle Peter Singer et qui finalement le met en relation avec, en parallèle avec le racisme, le sexisme, c'est-à-dire le traitement, la discrimination finalement d'êtres vivants sur la base de leur appartenance à une catégorie, en l'occurrence une autre espèce, et la non-prise en compte de leurs propres intérêts. Voilà. Donc effectivement, c'est un terme qui est chargé, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'antispécisme, ça l'évoque évidemment un combat militant, mais de plus en plus dans la littérature de recherche, le concept de spécisme fait son introduction finalement et correspond aujourd'hui à une catégorie descriptive, c'est-à-dire la discrimination, comme il faut, la différenciation évaluative qui est faite entre les différents vivants.
Oui, alors on pourrait vulgariser et dire qu'il s'agit d'un racisme à l'égard des animaux sous prétexte qu'ils seraient inférieurs à l'homme. Hein. Audrey Maille, un antispéciste sur le continent africain, dans un pays où il y a de très nombreux problèmes et de conflits entre les hommes, est-ce que ça vous étonne ?
Eh bien, pas tant que ça, en fait. En fait, moi, j'ai moi-même assisté à des scènes assez surprenantes en Afrique. Alors, j'ai travaillé il y a quelques années en Ouganda. Et en Ouganda, c'est vrai que la forêt les forêts dans lesquelles vivent les singes, les primates non humains, sont en train de disparaître. Elles sont grignotées pour laisser la place aux champs, principalement. Et en fait, il existe très nombreux conflits en Ouganda et comme dans de nombreux pays. Entre la faune sauvage et les humains, les animaux vont tout simplement venir se servir dans nos assiettes, ils vont piller les champs, ils vont tuer le bétail. Et donc, en fait, on assiste à des conflits avec des personnes qui vont vraiment avoir du mal à gérer ces animaux qui viennent jusque dans leur jardin, dans leur champ. Et malgré tout, en dehors de ces contextes de conflits, quand il y a des rencontres qui se produisent, souvent, on assiste à des scènes avec des personnes qui ont beaucoup d'empathie pour ces animaux, qui considèrent qu'en fait, comme leur habitat est en train de disparaître, probablement, ils ont du mal à trouver de quoi se nourrir. Mmh. Et moi-même, il y a quelques années, j'ai travaillé donc en Ouganda, au parc national de Kibale. C'est un parc national qui est bizarre parce qu'en fait, il est traversé par une grosse route qui relie Kinshasa à Entebbe. Donc les deux capitales, RDC et Ouganda, et donc une route très fréquentée. Et sur cette route, en fait, il y a des babouins qui viennent squatter sur les bords de la route et qui attendent que les gens leur donnent des biscuits, des bananes frites. Et en fait, on assiste à beaucoup, beaucoup de scènes de personnes qui vraiment s'arrêtent pour nourrir les babouins. Donc j'ai eu l'occasion de leur demander quelles étaient leurs motivations à leur donner à manger. Et souvent, en fait, ils me répondaient tout simplement... ces babouins, s'ils sont là, c'est qu'ils n'ont plus rien à manger. Ils sont en train de mendier sur la route. Mmh. Donc, il faut qu'on leur donne à manger.
Sans domicile fixe.
Et je précise que c'était vraiment des personnes locales. Hein. C'était
oui, pas oui, oui. Il ne s'agit pas de touristes européens ou autres. Ça va dans le même sens, le message de Jean-Vier Arutchourou, qui est en RDC également. Il nous dit, c'est très important pour moi le bien-être animal, parce que je travaille dans le parc national des Virunga, hein, où il y a les fameux gorilles. Mais vous nous en direz quelques mots, Audrey Maille. La protection des animaux, c'est notre objectif, ça nous permet aussi de développer le tourisme et ça bénéficie à la population. On va y revenir, mais il faut tout de même bien comprendre d'où est partie cette gigantesque lame de fond aujourd'hui avec vous, Jennifer Gallet. Le débat sur le bien-être animal il a surtout émergé en Europe.
Bah, en fait, c'est vrai que
là,
ces
derniers mois, hein, ou ces dernières années.
C'est un débat qui est, une question qui est extrêmement complexe, et on voit bien dans tous les, dans ce que nous a dit Audrey, et puis aussi dans le montage que vous avez fait, que le bien-être animal, c'est la question de quelle place on fait à l'animal, nous humains, quelle place on leur donne, qu'est-ce qu'on fait avec eux. Et en gros, c'est vrai qu'on note, en fait, il y a des études comme ça, des études poussées qui ont été faites sur l'émergence, en fait, de cette notion, comment cette notion allait rentrer dans le débat, dans les préoccupations de société. Donc là, c'est vrai qu'en Europe, il y a une sensibilité, on sent, à cette question qui progresse. Et en gros, on sait qu'avant, en gros, on réprimait les actes de cruauté. Je pense que Laurent, il pourra nous expliquer un peu mieux ça, mais les actes de cruauté envers les animaux. Et puis, il y a eu lentement quand même un changement comme ça, quelque chose de plus fin sur il y a la cruauté qu'il faut réprimer, et il y a aussi qu'est-ce qu'on fait avec ces animaux, mais quand même beaucoup situé dans le domaine de l'élevage notamment.
C'est ce que j'allais dire, parce que quand même le fait qu'on mange pas mal de viande et que en France par exemple 90% de la production de viande se fait à partir d'élevage intensif, il y a forcément une prise de conscience qu'on est quand même allé très loin dans la production de viande. Hein. Je pense aux images choc de l'ONG L214 qui ont fait le tour du monde et qui ont montré les conditions terribles dans lesquelles les animaux sont élevés et abattus.
Mais là, il y a le paradoxe que vous soulignez très bien, c'est-à-dire à la fois il y a une sensibilité plus importante qui se fait jour, et en même temps on continue à manger de la viande, et il y a tout un débat autour des chiffres de la consommation de viande, mais on voit qu'il n'y a pas vraiment une baisse qui est très nette. Les chiffres sont pas tous vont pas tous dans le même sens, parce qu'avec la folie des hamburgers, il y a quand même un appétit pour la viande qui ne se dément pas.
Et de toute façon, les pays émergents, eux, aspirent à manger plus de viande, et on peut le comprendre parce qu'ils en ont manqué pendant longtemps. 27% des Français seraient prêts à devenir flexitariens. Flexitariens, c'est-à-dire à manger de la viande de qualité, de façon très occasionnelle. Globalement, selon un sondage IFOP en France, les deux tiers des sondés sont maintenant favorables à une amélioration du bien-être des animaux. Alors, une fois qu'on a dit ça, reste à voir comment ça se traduit dans l'agenda politique, mais on a l'impression qu'un peu partout en Europe, à l'heure actuelle, les dossiers sont sur la table.
Je crois, si je peux intervenir, effectivement, les évolutions de la consommation de viande sont très différentes en fonction des périmètres étudiés, c'est-à-dire que dans les pays occidentaux, on a une tendance à la baisse, même si au niveau global, effectivement, au niveau planétaire, on a une élévation qui est manifeste. Donc je crois qu'après, il y a des mesures qui sont prises et des initiatives qui sont développées. Je pense par exemple au lundi vert, lancé en France il y a quelques années, et qui maintenant commence à percer, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui tentent de modifier leur alimentation progressivement pour justement diminuer la part de l'alimentation carnée. Après, un autre mot concernant les cruautés. Vous avez évoqué le fait que la cruauté, effectivement, est contestée. En fait, jusqu'à assez récemment, les humains, finalement, les philosophes, par exemple, critiquaient ou bien mettaient en cause la cruauté parce que, finalement, elle était, une manifestation condamnable du comportement humain et pas tellement parce qu'elle touchait les animaux. Et donc, plus récemment, effectivement, avec l'évolution des connaissances scientifiques sur les capacités sensorielles, perceptives, émotionnelles des animaux, eh bien, il n'est plus possible, évidemment, de les traiter comme jusqu'alors.
Jennifer Gallet, pour revenir à l'agenda politique, est-ce que c'est clairement le travail des ONG de sensibilisation relayé par les médias, relayé ensuite par les sondages, l'opinion publique, qui ont fait monter les dossiers au-dessus de la pile de tous les autres dossiers, surtout en ce moment, mais non. En tout cas à l'agenda politique. Est-ce que c'est ça qui a fait monter ces sujets-là à l'agenda politique? Parce que si on reprend par exemple la France, le référendum d'initiative partagée, avec des propositions fin d'élevage intensif d'ici 2040, interdiction de l'élevage en cage d'ici 2025, interdiction sous 5 ans des élevages de fourrure, fin de la chasse à cour, chasse traditionnelle, interdiction d'ici 2025 des spectacles avec animaux sauvages, interdiction de l'expérimentation animale. Ça fait long, ça fait lourd, ça fait, ce sont quand même des changements qui ne vont pas se faire sans heurts.
Oui, ben, c'est vrai qu'il y a une prise, il y a une vraie prise de conscience qui passe par par un choc des images, pour reprendre une expression un peu de, on disait par image, le poids des mots, le choc des photos. Ben, là, en fait, L214, c'est vraiment le choc des vidéos, c'est-à-dire que là, en fait, eux, ils montrent ce qu'on ne veut pas voir. C'est-à-dire qu'on parle de bien-être animal, on parle de réglementer la façon dont les animaux sont élevés et tout. Et puis après, il y a tout un espèce d'angle mort autour de la mort, en fait, autour de la finalité de pourquoi on est avec des animaux d'élevage. On est avec des animaux d'élevage pour les tuer et pour les consommer. Donc ça, c'est vrai que toute cette partie, on le sait, mais on n'a pas trop envie de voir comment ça se passe. C'est très compliqué. On a vu des enquêtes là récentes de journalistes qui s'étaient... qui était parti en immersion dans ce monde aveugle des abattoirs. Et en fait, L214, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chercher des lanceurs d'alerte, ils ont été mettre des caméras à cacher et ils ont rapporté des choses qui sont extrêmement... qui choquent notre sensibilité et qui nous appellent à nous questionner sur est-ce qu'on est prêt à toute cette souffrance pour manger de la viande?
Oui. Derrière, il y a tout de même toute une agriculture, tout un secteur économique et c'est quand même pas si simple. Je voudrais qu'on vous donne la parole, les voisins et les voisines, vous nous appelez sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui est à Nouakchott en Mauritanie. Bonjour Bouna.
Bonjour à tous.
Et soyez le bienvenu Bouna. Alors vous êtes directeur d'école et vous menez tout un travail entre les enfants et les animaux.
Oui, enfin j'essaie de mener ce travail parce que je suis moi-même sensible aux animaux, j'aime bien les animaux. Ce n'est pas, je sens que nous sommes aux antipodes de nos priorités selon nous et selon vous là-bas. Mais de toute façon, j'essaie de montrer aux enfants que les animaux aussi, parfois, ils souffrent. Et dans notre école, nous avons quelques chats, nous avons une tortue, nous avons des cailles. Et j'essaie à chaque fois que je peux de montrer aux enfants que ces animaux ne sont pas des jouets, que parfois... on peut essayer de ne pas jouer avec eux, de ne pas leur faire mal, d'essayer de leur faire plaisir en leur donnant des graines, en essayant de toucher les chats, les caresser. Et le résultat que j'ai obtenu, c'est qu'au début, il y avait des enfants qui craignaient complètement les animaux et qui ne voulaient pas s'en approcher du tout. Et maintenant, je vois que le Coran, si on peut dire, passe un peu mieux. Et ceux qui s'approchaient trop des animaux et qui avaient tendance à les considérer comme des poupées, ce n'est pas le cas, ce sont des animaux qui sont sensibles et il ne faut pas les maltraiter non plus. Enfin, c'est l'idée que j'ai envie de faire. Quand il y a un chien, il reconnaît toujours quelques grands enfants et il leur saute dessus. Et je trouve que c'est bien parce qu'autour de nous, ce n'est pas toujours le cas. On considère les animaux parfois comme des moins que rien. Surtout les ânes ici, ils sont très maltraités.
Ah, et les ânes, ouais, qui sont vraiment considérés comme des porteurs. Hein. D'ailleurs, ils l'ont toujours été durant l'histoire. Merci beaucoup, Bouna, de nous avoir appelé de Nouakchott en Mauritanie. Merci pour ce témoignage. Laurent Beck-Chankland, la relation des enfants avec les animaux, quelles que soient les zones géographiques, a toujours été quand même assez ambivalente. Hein. Qui ne se souvient pas d'avoir joué avec une fourmi pour finir par l'écraser.
Oui, alors effectivement, on a évoqué tout à l'heure la question du spécisme. Il y a bien sûr une sorte de hiérarchie entre les animaux qui est opérée par les humains, puisque est-ce que pour tout le monde, une fourmi, c'est un animal par rapport, par exemple, au chat ou au chien? Donc on a évidemment une sorte de continuum qui est appelé parfois socio-zoologique, c'est-à-dire qui manifeste la valeur qui est attribuée à différentes espèces. Et c'est vrai que la fourmi jouit d'une moindre considération, ou la mouche, que le chat, le chien ou les animaux dits familiers. Après, on peut bien sûr étudier la manière dont les enfants traitent les animaux. La plupart d'entre les enfants ne sont pas, je dirais, cruels avec ceci, mais certains, effectivement, commettent des actes de cruauté. Nous avons fait une enquête, d'ailleurs, à ce propos en France, il y a quelques mois, auprès de 12 500 adolescents en collège, donc dans une cinquantaine d'établissements scolaires français. Et on leur posait la question anonymement, est-ce que vous avez déjà... intentionnellement blessé des animaux, si oui, lesquels, dans quelles circonstances. Mmh. Et il y avait 7% d'enfants qui déclaraient avoir déjà commis des violences, des cruautés envers des animaux. Et nous avons cherché à comprendre quels étaient leurs profils. Et ce qui ressort assez clairement, c'est qu'il y a bien sûr un profil statistique, finalement, des enfants qui commettent ces actes de cruauté. C'est le plus souvent, voilà, c'est le plus souvent des garçons qui sont généralement moins attachés que les autres à leurs parents et à l'école, qui ont des problèmes de scolarité en général, qui sont plus anxieux, plus dépressifs, et qui ont été impliqués également dans des violences envers d'autres élèves. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un facteur commun. Alors après,
donc il y a un lien finalement entre maltraitance animale et humaine, par exemple.
Voilà, alors c'est une question assez ancienne, mais effectivement, on a observé ce lien dans l'enquête, c'est-à-dire que ceux qui avaient commis des violences envers les animaux étaient également davantage auteurs de harcèlement envers d'autres élèves. Et puis ce qui ressort également, c'est qu'ils avaient une image finalement beaucoup plus négative, beaucoup plus évaluative des animaux, c'est-à-dire qu'ils considéraient qu'on pouvait effectivement utiliser les animaux pour la recherche, on pouvait effectivement s'en servir, donc ils étaient finalement plus spécistes en quelque sorte. Ouais.
Est-ce qu'un père de famille qui frappe son chien avec une ceinture est bien parti pour faire la même chose avec ses enfants ?
Alors, encore une fois, la plupart des violences qui sont commises envers les animaux ne donnent pas lieu par la suite à des violences envers les humains. Mais par contre, c'est effectivement un marqueur possible, à tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui, les agences sanitaires ou les agences, par exemple, le FBI aux États-Unis, va recommander effectivement d'enregistrer, de prendre en compte ces données pour pouvoir justement identifier des situations à risque. Donc clairement, effectivement, lorsqu'il y a des violences envers les animaux dans un foyer, cela peut être indicatif de risque pour la famille. Ça, c'est une donnée qui est relativement bien établie.
Oui. Et c'est relativement nouveau de prendre en compte cette donnée. Vous restez avec nous, vous nous appelez, bien sûr, les voisins, les voisines, vous avez la parole. On est en direct sur RFI, 33 7 64 45 51 41. On accueille une auditrice qui nous appelle du Rwanda. Bonjour Zebounissa.
Ah, bonjour Emmanuel.
Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes au Rwanda, vous avez une passion pour les chats.
Oui, depuis que je suis gosse.
Oui.
Mais j'en ai un peu trop maintenant, mais bon, je ne sais pas quoi faire, alors je m'en occupe bien.
Qu'est-ce que vous appelez avoir trop de chats ?
Vous savez, l'espace n'est pas très grand ici, mais actuellement, il me semble que mes chats s'en rendent compte, puisque les chattes n'ont plus de petits depuis à peu près un an et demi. Ah,
mais vous avez combien de chats, Zebounissa ?
23.
Ah, 23 chats !
Oui, chats et chattes.
Ouais, c'est un budget hein, pour les nourrir.
Oui.
Comment vous êtes perçu par la communauté, par le quartier ?
Y en a qui disent que je suis ma boule, hein, parce que vous voyez ce que je veux dire. Ils trouvent que je suis pas bien dans ma tête. Pourquoi je garde mes chats ?
Oui.
Voilà.
Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que c'est du gaspillage, ce que vous dépensez pour vos chats, par exemple ?
Eh oui, exactement. Parce que vous voyez que je fais du commerce et en fait, ce que je gagne n'est pas très lourd. Mais bon, il y a quelqu'un qui m'aide pour d'autres dépenses, hein, pour dépenses médicales et ça. Parce que vous voyez, j'ai 67 ans, j'ai des rhumatismes et ainsi de suite.
Quelle relation vous avez avec vos chats, Zebounissa ?
Ah, c'est mes chats à moi. Je les aime vraiment bien.
C'est votre famille.
Mais il y en a que j'aime plutôt il y a des chats qui m'aiment plus que d'autres.
Alors c'est quand même intéressant ce que vous disiez. Comme on vous manquait de place, les chats l'auraient compris et mettent moins souvent bas. Je ne sais pas si scientifiquement d'ailleurs ça se vérifie ou pas. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question que soulève Zebounissa, très, très intéressante. Parmi nos invités
Oui, moi je veux bien.
Audrey Maille, vous qui êtes primatologue.
Oui, parce que je travaille effectivement dans des contextes de captivité. Alors là, je ne sais pas comment ces chats sont gardés, s'ils ont accès à l'extérieur ou s'ils sont dans une petite maison.
Ils sont dans une cour, Zebounissa, dans la maison, ils vont et viennent.
Oui, ils sont dans une cour et ils ont une véranda où ils ont... Vous voyez, il y en a qui étaient sous une chaise, là, ils dorment là. Oui. Et bon, il y en a qui vont se balader la nuit et qui reviennent le matin, ainsi de suite. Oui. C'est des chats libres, quoi. Mmh.
Alors, vous nous envoyez, Zebounissa, envoyez-nous une photo hein, sur WhatsApp, s'il vous plaît. On va poster ça sur nos réseaux sociaux. On aimerait bien une photo de famille de vous et de vos 23 chats. Vous êtes à Nyanza, au Rwanda. Alors, l'effet sur la reproduction, Audrey Maille.
Oui, alors voilà, donc l'enfermement des animaux, en parc zoologique, dans n'importe quel contexte de captivité, en fait, effectivement, on considère souvent que ça va avoir de nombreux effets sur la santé de ces animaux, et ça va s'exprimer souvent par des indicateurs comme des maladies plus fréquentes, une baisse de fertilité. Donc c'est des indicateurs zootechniques qui sont très souvent utilisés, y compris dans les élevages d'animaux pour la viande d'ailleurs.
Vous restez avec nous, Audrey Maille, vous restez avec nous, les voisins, les voisines, vous avez évidemment la parole. Je remercie Zebounissa pour son témoignage. Dites-nous comment est considéré le bien-être animal dans votre pays. Zebounissa nous disait, moi, une femme avec 23 chats, je suis considérée comme une maboule. Que ce soit des animaux sauvages, des animaux domestiques, comestibles, nuisibles, utiles, vous avez la parole en tout cas pour nous parler des animaux qui vous entourent. Vous pouvez aussi nous parler de votre exaspération pour ceux qui les traitent peut-être trop bien comparé aux difficultés qu'ont les hommes et les femmes à se nourrir, à survivre. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Allez, je vous offre une chanson pour méditer sur les os. Audrey Maille, vous allez nous dire dans quelques instants si les zoos servent à quelque chose ou bien s'il faut en finir avec ces animaux en captivité.
Rhinocéros du zoo de Vincennes, sa peau, une écorce qui craquelle, il traîne. Licorne monstrueuse aux paupières de terre glaise, mastodonte de peine sans espoir de remise. Vieillard, un enclos de béton vieux, vieille gloire, un hospice de banlieue. À l'étroit piégé dans le zoo de Vincennes, une baleine noyée dans les eaux de la Seine. Quel chagrin, quel triste monde, où la savane se fane à l'ombre. La fausse montagne du zoo de Vincennes, dans ce minable safari domestique, où même le roi de la jungle abdique, loin de la savane et des vastes plaines. Le lion est un vieux beau à bedaine, crinière en calvitie. Derrière son grillage, il ne tourne même plus comme un lion en cage. À quoi bon encore jouer les bêtes féroces quand on ne fait même plus peur aux gosses? Quel chagrin, quel triste monde, la savane se fane à l'ombre. La fausse montagne du zoo de Vincennes, sous la volière des rapaces résignés, regardent en l'air sans plus rien espérer. À côté des simagrées, des singes sans gêne et un petit train que les enfants dédaignent. Un couple d'éléphants piétine d'ennui aux défenses d'ivoire, inutile éterni. Pour essayer d'atténuer la déprime qui les gagne, faudrait un Lexomil gros comme un pain de campagne. Quel chagrin, quel triste monde, où la savane se fane à l'ombre. La fausse montagne du zoo de Vincennes.
Le zoo de Vincennes, Benabar, et une vision assez pessimiste des zoos. Audrey Maille, est-ce qu'il faut supprimer les zoos?
Je n'aurais pas une position aussi tranchée. Voilà, même si je pense qu'effectivement il y a beaucoup de choses encore à améliorer dans les zoos, que ce soit au niveau de la qualité de vie qu'on donne aux animaux, la place qu'on va leur accorder et surtout les occupations qu'on va leur fournir pour que leur captivité soit moins ennuyeuse. Parce que finalement c'est ça le plus gros problème dans les zoos, c'est l'ennui que peuvent ressentir les animaux.
Perceptible d'ailleurs dans leur regard, hein.
Oui, dans le regard et surtout dans leur comportement. Donc souvent, on va avoir des animaux qui vont développer des comportements qu'on appelle des stéréotypies. Souvent, ça va consister en des va-et-vient, en suivant toujours le même parcours au sein de leur... à l'intérieur de leur enclos. On peut avoir des animaux aussi qui vont se gratter de façon assez compulsive, voire qui vont développer ce qu'on peut considérer comme des troubles obsessionnels compulsifs.
Mais alors, à quoi ils servent ces os dans ces cas-là?
Donc les os, effectivement, aujourd'hui, ils ne sont pas considérés comme les autres lieux de captivité. Et d'ailleurs, c'est ce que la ministre Barbara Pompili a voulu souligner lorsqu'elle a donc interdit les animaux sauvages dans les cirques, elle dit voilà, les zoos ne sont pas à prendre au même niveau, parce qu'en fait les zoos aujourd'hui ils ont des missions qui sont clairement définies et que les zoos revendiquent. Ils se disent aujourd'hui acteurs de la conservation de la biodiversité. Et les zoos le font par différents moyens. Donc déjà, la première chose que les zoos revendiquent, c'est la possibilité de maintenir en leur sein des populations qui soient saines génétiquement et qui pourraient donc un jour peut-être être réintroduites en milieu naturel. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la conservation ex situ.
Il y a toute la dimension pédagogique, c'est-à-dire montrer aux enfants, notamment, voir, comprendre, faire naître de l'empathie. C'était le cas aussi avec qui vont être interdits les orques, les dauphins en captivité.
Ouais. Exactement. Donc effectivement, moi, c'est pour moi la mission principale des zoos. Je pense que c'est là qu'ils ont un rôle à jouer dans le fait de sensibiliser leurs visiteurs à la biologie des espèces qu'ils vont héberger, mais aussi donc aux menaces qui vont peser sur tous ces animaux. Et donc, forcément, ils ne peuvent le faire que s'ils présentent des animaux qui sont en bonne santé, qui ont des comportements qui sont les plus proches possibles des comportements naturels. Moi, je suis convaincue, moi, vraiment, au plus profond de moi, qu'on ne peut pas éveiller de l'empathie chez les gens les mobiliser pour défendre la biodiversité si on ne leur montre pas des animaux qui vont bien.
Ouais. Il faudrait qu'on parle aussi des parcs. Alors les parcs, c'est un vaste sujet sur le continent africain. D'abord parce qu'il y a plein de parcs très différents dans leur fonctionnement. Mais quid de la cohabitation entre les humains et les animaux sauvages en milieu naturel ?
Alors bon, il y a autant de parcs en milieu naturel qu'il y a de parcs zoologiques, donc on peut avoir un peu tous les cas de figure, mais c'est vrai qu'on peut aller d'un extrême à l'autre avec des parcs où il va y avoir énormément de visiteurs, donc de touristes qui vont venir. Souvent c'est le cas des safaris en Afrique par exemple, des parcs à safaris comme le Maasai Mara au Kenya, où la densité d'humains est tellement forte que finalement on se retrouve quasiment dans un parc zoologique, hein, avec des animaux qui sont harcelés toute la journée. Et puis à côté de ça, on a des parcs nationaux où là, il va y avoir seulement une petite poignée d'humains qui vont être autorisés à pénétrer chaque jour de façon très encadrée.
Oui, où il reste vraiment en milieu naturel. Mais il y a aussi, vous nous parliez de l'Ouganda, on a évoqué le cas de la RDC, on sait que les gorilles ont été décimés notamment aussi par les conflits qu'ils ont été et qu'ils continuent parfois d'être consommés aussi comme de la viande. Et puis il y a aussi un problème d'animaux sauvages qui détruisent les cultures quand ils n'ont plus assez d'espace naturel pour se nourrir. Il y a un problème de cohabitation avec les cultivateurs.
Oui, mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure en début d'émission. C'est vrai qu'il y a beaucoup de conflits qui existent parce que donc les interactions vont être de plus en plus fréquentes entre les humains et les animaux, étant donné que les humains pénètrent de plus en plus sur le territoire entre guillemets des animaux.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une meilleure relation finalement ? Est-ce que les agriculteurs, c'est quelque chose qui est recevable d'améliorer l'environnement des animaux?
Je pense que la première chose à faire, c'est effectivement de trouver des moyens pour que les animaux n'aient plus besoin de venir chez les humains, en fait. Voilà, tout simplement, qu'ils trouvent ce dont ils ont besoin pour vivre correctement dans leur environnement.
Oui, mais eux ont besoin de cultiver et de s'étendre, hein, ne serait-ce que pour des raisons démographiques.
Oui.
Une question d'Akilou qui est à Cotonou au Bénin. Quelles conséquences pourrait avoir la destruction des animaux sauvages ? Quels sont leurs effets sur le bien-être de l'homme ? Audrey Maille ?
Oui.
C'est une colle que vous pose cet auditeur ?
Oui, effectivement. C'est une question qui me laisse qui me prend un peu au dépourvu. Effectivement, le bien-être des humains, de toute façon, moi, quand je parle de bien-être, donc je suis biologiste, et finalement, quand je parle de bien-être, pour moi, c'est aussi bien le bien-être des humains que des animaux. D'ailleurs, il y a une seule et même définition pour le bien-être. Le bien-être, on considère que...
Oui.
Pardon. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc, on considère généralement que le bien-être, en fait, c'est juste le fait d'avoir un sentiment d'assouvissement, de se sentir bien, parce que tous nos besoins sont satisfaits au niveau corporel et au niveau de l'esprit aussi.
Oui.
Donc, déjà, le bien-être animal et le bien-être humain, finalement, c'est une seule et même définition.
Oui, oui. Un message de Drissa à Abidjan, c'est aux animaux que nous devons les pollinisations, germination des plantes, et c'est grâce à ces animaux sauvages que la nature maintient son équilibre. Donc, sauvegarder les animaux sauvages et domestiques serait en quelque sorte protéger la nature et l'humanité. Bon, là, peut-être qu'il y a aussi confusion entre animaux sauvages et domestiques, je ne sais pas. Audrey Maille.
Alors, animaux sauvages et domestiques, bah, déjà les animaux domestiques, ils ont un long parcours avec les humains. Enfin voilà, c'est un processus qui s'est produit sur de très nombreuses années, la domestication. Donc voilà, on peut pas non plus les mettre dans le même panier. Ouais.
Mais il faisait allusion notamment aux abeilles, aux insectes, aux oiseaux aussi qui peuvent transporter des graines, etc.
Alors bah, là, effectivement, on est sur des animaux sauvages, on n'est pas sur des animaux domestiques. Hein.
On vous donne la parole, les voisins et les voisines. On donne la parole à un auditeur qui est Seyaya, qui est dans la région de Tambacounda, dans le sud-est du Sénégal. Bonjour Yaya.
Bonjour Emmanuel.
Yaya, vous habitez dans un village avec des animaux qui sont utilisés pour les travaux aux champs et domestiques ?
Oui, c'est exactement ça. Donc, bonjour Emmanuel, bonjour à tous les voisins et voisines. Je vous appelle depuis Malemniane. Donc, voilà. Nous utilisons ces animaux-là dans les travaux champêtres, mais aussi dans les travaux domestiques, hein. C'est bien ça.
Donc ça veut dire quoi ? Des bœufs, des bœufs, des ânes ?
Oui, des bœufs, des ânes, des chevaux. Donc moi, je suis très sensible aux conditions de vie de ces animaux, et j'avoue que ces êtres qui affondent pour la plupart, c'est sûr, ne vivent pas les meilleures conditions. Donc Emmanuel, j'aimerais partager avec les auditeurs les deux points qui m'importunent dans tout cela.
Oui.
Oui, d'abord les ânes, les chevaux et bœufs qui nous aident dans les tâches domestiques ou champêtres ne sont pas bien traités, hein, car en plus des brimades dont ils subissent, ils ne sont pas bien soignés quand ils sont malades, ne sont pas bien nourris et quand ils ont faim ou soif. Mmh. Ensuite, le deuxième point, Emmanuel, ça concerne les maladies qui ravagent parfois la volaille. À l'approche, par exemple, de la saison des pluies, vers les mois de mai, juin, comme ça, où la récente maladie qui a touché les ânes, la maladie, elle est mortelle même, parce que beaucoup d'ânes mouraient en cette période-là. On ne voit pas de vaccins, de stérilisation, ni même de soins complets pour ces êtres, sans parole. Voilà ce que je tenais à partager avec les voisins Emmanuel.
Alors, il y a des vétérinaires dans le milieu agricole, néanmoins, d'autant plus que les premiers animaux que vous avez cités sont utilisés comme des machines agricoles, hein, pour les chevaux, les bœufs.
Oui, c'est ça. Parce que pour la plupart, nous utilisons l'agriculture artisanale. Mmh. Donc, on n'a pas de machine. Donc, pour la main-d'œuvre, on est obligé de faire recours à ces animaux-là. Donc, pour la traction animalière, la traction des machines-là, ce sont ces animaux-là que l'on utilise.
Mmh. Est-ce qu'il y a suffisamment de vétérinaires pour s'occuper de ces animaux ?
Donc, il y a un vétérinaire que je peux qualifier d'informel, puisque il ne nous a pas été envoyé par l'État, mais il y a un autre qui nous a été envoyé par l'État, mais qui peine à faire correctement son travail, peut-être par manque de moyens ou manque de médicaments, quelque chose comme ça.
Oui. Un de nos invités voulait intervenir, je crois.
Oui, simplement, je trouve que ce qui est intéressant, voilà, c'est ça, c'est de voir qu'il y a une sorte de constante quasiment anthropologique dans ces témoignages, c'est-à-dire que les animaux sont finalement utilisés comme des instruments. Mmh. Aujourd'hui, 3 novembre, voilà, il y a par exemple un anniversaire, c'est l'envoi de la chienne Laika dans l'espace. Donc effectivement, en 57, dans Sputnik 2, voilà, on a utilisé un animal pour la recherche scientifique. Ils sont également utilisés dans les films, au cinéma. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'il y a une sorte de l'utilisation très très universelle des animaux à différentes fins, des fins alimentaires, des fins de loisirs, des fins agriculture, et tout cela finalement traduit cette valeur qui est assez basse, qui est attribuée finalement aux bêtes par rapport justement à leurs utilisateurs. Et je pense que les évolutions historiques, précisément aujourd'hui, mettent un peu en cause cette instrumentalisation généralisée et essayent de prendre le point de vue de l'animal plus que de l'humain dans son utilisation.
Oui, prendre le point de vue de l'animal, ça tout de même, c'est limite, on va en parler. Merci beaucoup Yaya de nous avoir appelé. On donne la parole à Abdoulaye qui est à Mbour, au sud de Dakar, au Sénégal. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins et les voisines.
Abdoulaye, vous avez dit au Standard que vous mangez peu de viande et jamais des animaux dont vous vous êtes occupé.
Oui, vous avez parfaitement raison Emmanuel, c'est ça, parce que ça me donne de la chair de poule, je ne veux pas. Alors, je peux manger dans une moindre mesure si c'est égorgé par quelqu'un d'autre, si c'est élevé par quelqu'un d'autre. Mmh. Mais quand j'ai les élèves, je ne peux pas les manger comme ça.
C'est-à-dire que si vous élevez vos poulets, vous ne pouvez pas les manger. Vous allez les échanger, vous faire donner d'autres poulets que vous n'avez pas connus vivants, ou comment vous faites?
Non, sincèrement, non, je n'ai pas les moyens. C'est pourquoi je ne les égorge pas. Donc la maison sait ça de moi et quand c'est de préparer du poulet, ben, moi je m'éloigne carrément de la maison.
Oui.
Je préfère plutôt manger un peu de légumes, voilà quoi.
Donc, poisson, voilà. Donc un bon poulet grillé bicyclette, ça vous tente plus? Parce que c'est bon quand même.
Si, ça me tente, mais il ne faut pas que je l'égorge.
Ouais,
si je l'égorge, je le mange pas.
Comme, et quand vous avez ce genre de discussion avec vos voisins, comment ils réagissent?
Ben, ils me disent que je suis un peu fou, là, je ne sais pas tellement. Je dis, d'accord, mais c'est en moi, je ne sais pas pourquoi, mais sincèrement, je ne sais pas. Parce que moi, je m'occupais beaucoup d'animaux. Hein. Les animaux, par exemple, le cheval de mon oncle, moi, je m'en occupais beaucoup. Je le lavais, je le traitais très, très bien. Et sincèrement, c'est une relation d'amitié, une complicité entre lui et moi. Hein. Ouais. Beaucoup de chevaux sont passés entre même. Hein. Je le traitais très bien.
Une relation d'amitié.
Oui, très bien, les moutons, tout ça là. Donc, voilà.
Alors, on vous accuse de sensiblerie, Abdoulaye?
Ben oui, parfois oui, parce que c'est un peu. Vraiment, c'est être parfois amoureux même des animaux là. Surtout des animaux de compagnie, comme le cheval, comme le mouton, la chèvre. Je les adorais. J'ai actuellement une brebis à la maison et quelques poulets là. Vraiment, je prends la brebis, par exemple, le matin, si elle est un peu sale, là, je la rince carrément et avec de l'eau.
Mais vous utilisez son lait tout de même?
Le lait, actuellement, non, je ne l'utilise pas.
Ah bon?
Non, pas du tout. Je le réserve aux petits, sincèrement, je ne le mange pas. Je ne bois pas son lait.
Merci à vous, Abdoulaye, en tout cas, de nous avoir appelé de Mbourg au Sénégal. Alors, il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, Jennifer Gallet. Même en Europe, les auditeurs nous l'ont dit, sur le continent africain, ils sont perçus un peu comme différents, un peu comme curieux lorsqu'ils ont... trop d'émotion, d'attention vis-à-vis des animaux. Mais en Europe, même si les opinions sont en train de se modifier durablement, les points de tension ne manquent pas et ça bloque quand même sur pas mal de sujets, Jennifer Gallet.
Je pense que la question que vous avez très bien évoquée, là, de manger ou pas de la viande, ça c'est une question qui reste quand même très clivante et qui peut, où on peut se disputer vraiment très méchamment, parce que une fois qu'on a pris conscience de ce que c'est que de tuer un animal pour le consommer, eh ben c'est difficile de le consommer. C'est ce que nous dit, c'est ce que nous disait l'auditeur là. Avec moi, je veux bien manger, mais pas les animaux avec lesquels j'ai été en contact. Et donc ça en dit beaucoup aussi sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais comment les gens travaillent dans les abattoirs. Enfin, je veux dire tout ce système et tout ce monde qui nous est assez inconnu et où il y a aussi, on a évoqué aussi beaucoup la souffrance des gens qui travaillaient dans ces lieux, les cadences et puis le fait d'être obligé de s'acclimater si c'est possible à cette mort comme ça qu'on donne quotidiennement. Il y a une chose qui me paraît très intéressante d'entendre tout ce qui a été évoqué, c'est avec cette montée de la sensibilité un peu à la cause animale, il y a aussi par rapport à la hiérarchie entre les animaux qu'on a envie de garder dans les zoos et les autres qu'on peut écraser et c'est pas très grave, ça aussi c'est quand même en train de changer parce qu'on s'aperçoit que tout se tient. C'est-à-dire qu'avec des problématiques systémiques comme le changement climatique, on s'aperçoit que chacun a son rôle à avoir dans un équilibre des écosystèmes. Oui.
Rappelons bien que l'élevage de viande, hein, évidemment, est un gros émetteur de gaz à effet de serre. Un audit de la Cour des comptes européenne montre que l'industrie ne respecte pas la réglementation en vigueur sur le bien-être animal. On se dit qu'on pourra toujours apporter de nouvelles interdictions, de nouvelles directives s'il n'y a pas de contrôle et si ce n'est pas respecté, à quoi ça sert ?
Alors je pense que la question du contrôle, elle est forcément très importante, mais aussi, et c'est ce que soulignait Laurent, c'est-à-dire le changement que les consommateurs amènent. C'est-à-dire que s'il y a moins de gens, ou s'il y a des gens plus exigeants sur d'où vient ce steak-là que je suis en train de faire griller dans ma poêle, on risque d'avoir quand même une pression sur le secteur de la production de viande qui peut vraiment, moi je pense, faire la différence.
En même temps, Laurent Baeck-Chankland, juste un mot de conclusion, Laurent Baeck-Chankland, mais si on reprend le monde un peu idéalisé d'autrefois où on se nourrit bossait avec sa production à la ferme, avec des animaux qu'on connaissait, qu'on traitait bien, etc., ils finissaient quand même dans nos assiettes.
Alors, je ne sais pas de quel monde vous parlez, mais effectivement, ce qui est sûr, c'est que l'industrialisation a multiplié les occasions de maltraitance animale, ça c'est certain. Mais ce qui est également évident, c'est que de tout temps, les animaux ont été finalement, le plus souvent en tout cas, exploités et utilisés pour des besoins humains, sans prise en compte véritable de leurs propres besoins individuels. Donc je crois qu'il y a une évolution philosophique assez fondamentale aujourd'hui qui conduit à regarder les animaux comme des personnes, comme des êtres sensibles qui justement ont des besoins, des aspirations, et à tenter de concilier finalement leurs aspirations avec les nôtres. Mmh. Après, concernant effectivement ces questions de dissonance liées à la consommation de viande, il y a une étude assez amusante qui a été publiée par des collègues qui justement consistait à faire consommer à des personnes au laboratoire soit des noix de cajou, soit du bœuf séché. Et ensuite, on leur demandait d'évaluer les capacités cognitives et affectives des vaches. Et ce qui est ressorti, c'est que ceux qui avaient consommé peu de temps avant du bœuf avaient tendance à dévaloriser, à déprécier les capacités des animaux. Donc, je retiens vraiment effectivement l'idée que nous avons besoin de croire qu'ils sont nos inférieurs pour pouvoir les utiliser.
Ouais. Merci en tout cas à vous tous. Je terminerai avec le message de Théophile à Accra, au Ghana. C'est bien de protéger les animaux domestiques et de la brousse, mais n'est-ce pas aberrant et hypocrite de vouloir protéger cette nature alors que des humains meurent de faim, dorment dans la rue et se trouvent démunis de tout? C'est l'éternel débat sur la concurrence des humanités. Merci en tout cas à vous tous. Jennifer Gallet, journaliste pour le site The Conversation. Merci à vous Audrey Maille, primatologue, Muséum National d'Histoire Naturelle. Et merci à vous Laurent Bègue, Shankland, professeur en psychologie sociale à l'Université de Grenoble-Alpes. Et bien sûr, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera des cuisines du continent africain, mais pas forcément avec de la viande, avec des traiteurs à domicile qui nous donneront les recettes de leur succès hors confinement. On sera avec Chef Anto, notre voisine du Gabon qui s'est magnifié les produits d'Afrique centrale, notamment les épices. C'est l'occasion, les voisins, les voisines, d'échanger évidemment des recettes avec ces traiteurs professionnels et puis de poser vos questions aussi à ces professionnels de la cuisine à domicile pour des fêtes de famille ou des événements professionnels. Et vous pourrez nous appeler au 33 7 64 45 51. I'm going home when my time come. See a place where the river run. Green grass, blue skies and sun. Heart a beat like an African drum. Hey yo, I'm African. Although I was born in Los Angeles, I gotta get a tat to represent what my family is. Black skin, black bones, black man from the black planet. Black sand, black land. Back then I would have been on a ship, eating fish, taking weekend drifts in the sea to see if I could meet the French. Speaking tongues over drums, dancing and singing songs. You can see the long arm of the brothers we call all kin. African, I'm back again like I never left, never did. Heaven is Africa. I have to show my kids just how old the culture is. From California, but I wanna live in Africa. Oh Africa, oh Africa, my motherland. Oh. Hey, I'm going home when my time come. Same place where the river run. Green grass, blue skies and sun. Heart a beat like an African drum. Oh Africa, mother Africa, home of civilization, the cradle of mankind, the birthplace of creation. Generated from stories integrated through generations, told by the ancients. You could say it's none greatest. Africa, the reign of Egypt, range of my people dispersed through the earth's surface. Before you could purchase vehicles, they greet you on the coast in a boat. You can't believe it, yo, it floats. And you niggas made weapons out of stone. Fuck it, built my homes out of stone too. And a statue of me, cause I wanna be a king too. Shoot, we could be buddies, we could trade agriculture and riches from different shores. But if you ever cross me, then we will go to war. Un bon rap américain, Aloe Black, African Dream. Et c'est l'occasion aussi bien sûr de remercier avant qu'on se quitte pour le journal toute l'équipe, Juliette Brault, Louise Cadélec, Romain Dubrac, Laurie Plisson. Dans quelques instants, les voisins et les voisines, vous avez rendez-vous avec le journal et nous on se retrouve demain, même heure, même endroit, 10h10, temps universel.